Ce matin, pour rester dans la ligne de la première partie de ce culte particulier où nous venons de présenter le conseil d'anciens, je vous propose de méditer quelques versets du discours de l'apôtre Paul, ce discours qu'il adresse aux anciens d'Éphèse et qui nous est rapporté dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 20. L'apôtre est à la fin de son troisième voyage missionnaire. Il est déjà sur le chemin du retour vers Jérusalem où il espère arriver pour le jour de la Pentecôte. Et alors qu'il se trouve à Milet, il envoie chercher à Éphèse, qui n'est pas très très loin, les anciens d'Éphèse auxquels il va adresser un discours d'adieu très émouvant. En effet, Paul sait à ce moment-là qu'il ne les reverra plus, en tout cas pas ici-bas. Nous n'allons pas considérer tout le discours, mais seulement quelques versets, à partir desquels j'aimerais souligner quelques points concernant l'Église. Je vous invite à lire, donc si vous voulez suivre dans vos Bibles, ou alors ça va être affiché, si ça veut bien. Pour l'instant, ça ne veut pas, voilà. Actes chapitre 20, versets 28 à 31. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau parmi lequel l'Esprit-Saint vous a nommé épiscope. Faites paître l'Église de Dieu, cette Église qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais bien, moi, qu'après mon départ, s'introduiront parmi vous des loups féroces qui n'épargneront pas le troupeau et que d'entre vous-mêmes se lèveront des hommes qui diront des choses perverses pour entraîner les disciples à leur suite. Veillez donc, en vous souvenant que pendant 3 ans, nuit et jour, je n'ai cessé dans les larmes d'avertir chacun de vous. Et maintenant, je vous confie à Dieu et à la parole de sa grâce, qui a la puissance de construire et d'assurer un héritage parmi tous ceux qui sont consacrés. J'aimerais donc, à partir de ces quelques versets, faire ressortir différents points sur l'Église. Et j'ai donc intitulé tout simplement ce message « Quelques regards sur l'Église ». Des regards qui nous concernent si nous sommes en Christ par la foi, nous faisons partie de l'Église, et qui concernent aussi d'une manière particulière les anciens que Dieu nomme, que l'Esprit nomme, dit le texte, et à qui Dieu confie la mission de veiller, spirituellement parlant, sur l'Église. Et la première chose que je voudrais souligner, à partir donc de ce texte, c'est que l'Église appartient à Dieu. L'Église appartient à Dieu. Au verset 28, l'apôtre Paul dit que c'est l'Église de Dieu. L'Église de Dieu. Peut-être que vous avez une petite note dans votre Bible, un renvoi en note de bas de page ou quelque chose comme ça, pour vous dire que dans certains manuscrits, ce n'est pas l'Église de Dieu, mais l'Église du Seigneur ou l'Église de Jésus-Christ. Il se trouve que dans ce que l'on a pour habitude d'appeler ou de considérer les meilleurs manuscrits, les plus fiables, il y a la phrase « l'Église de Dieu ». Pourquoi ces variantes ? J'ouvre une toute petite parenthèse. Peut-être, sans doute, pour contourner la difficulté de la formulation qui se trouve à la fin de ce verset, où Paul dit « par son propre sang ». Par son propre sang, et il est question ici de Dieu, puisque c'est l'Église de Dieu. Il est bien sûr évident que l'apôtre Paul ici parle du sang de Jésus, de son sacrifice à la croix, mais la formulation prend un raccourci, et il est possible que certains scribes ont cherché à contourner cette difficulté ou à enlever cette ambiguïté. Quoi qu'il en soit, l'Église nous est présentée ici comme l'Église de Dieu, c'est-à-dire l'Église qui appartient à Dieu. Et pourquoi appartient-elle à Dieu ? La réponse est au verset 28. L'Église de Dieu, cette Église qu'il s'est acquise par son propre sang. L'Église appartient à Dieu par un acte de rédemption. Dieu a racheté l'Église. Dieu s'est acquis l'Église par le sacrifice de son Fils, par le sang de son Fils, par son propre sang. Il l'a racheté. Et c'est par cet acte de rédemption que l'Église est devenue propriété de Dieu. Il y aurait ici un parallèle très intéressant à faire avec le peuple d'Israël dans l'Ancien Testament et toute la rédemption qui s'y trouve, mais nous devons faire l'impasse faute de temps. Pour terminer ce premier point, j'aimerais juste poser deux courts prolongements de cette vérité, une Église qui appartient à Dieu. Et j'aimerais dire premièrement que si l'Église appartient à Dieu, alors elle n'appartient à personne d'autre. C'est une évidence. Elle n'appartient pas aux pasteurs, ou aux anciens, ou aux évêques, appelez-les comme vous voulez. Elle n'appartient même pas au pape. Elle appartient à Dieu, l'Église de Jésus-Christ, celle pour laquelle il a versé son sang, appartient à Dieu et à Dieu seul. Ce qui veut dire, et c'est le deuxième prolongement que je ne développe pas, que nous ne devons pas, que nous ne pouvons pas faire n'importe quoi dans l'Église. L'Église n'agit pas ou ne devrait pas agir en fonction des desiderata de chacun, des uns et des autres, en fonction de la volonté des responsables ou de ses membres, mais en fonction de la volonté du Seigneur, que nous sommes appelés à rechercher ensemble dans sa parole et sous la conduite de son esprit. C'est donc toujours la volonté du Seigneur qui doit primer, qui doit conduire l'Église. Et il est important de rappeler ici que l'Église n'a qu'une seule tête, c'est le Christ. Le Christ est la tête du corps qui est l'Église, dit Paul aux Colossiens. Et nous faisons tous, pasteurs, anciens, diacres, nous faisons tous partie du corps et non pas de la tête de l'Église. La deuxième chose que je voudrais retirer de notre texte concernant l'Église, c'est qu'elle est comparée à un troupeau, au verset 28 et 29. On pourrait dire énormément de choses sur cette métaphore du troupeau, mais j'aimerais simplement souligner une chose, c'est qu'un troupeau a besoin d'un berger. Un troupeau a besoin d'un berger. Un berger qui veille sur son troupeau pour le protéger des dangers. Un berger qui le nourrit ou qui l'emmène là où il trouvera de la nourriture. Un berger qui le soigne. Un berger qui prend soin de lui. Et ce berger pour l'Église, c'est bien sûr premièrement le Christ, qui est le berger de l'Église. Le bon berger. Oui, c'est le Christ, pour reprendre une formulation de l'Épître aux Hébreux, qui est le grand berger des brebis. Et c'est véritablement lui qui conduit, qui protège, qui nourrit et qui donne même sa vie pour ses brebis, comme nous le dit Jésus dans Jean 10. Mais voilà, ce berger est reparti. Physiquement reparti. Et il n'est plus là aujourd'hui physiquement pour prendre soin de son troupeau. Et c'est la raison pour laquelle il a donné à l'Église des dons et des ministères pour prendre soin du troupeau. Pour que lui continue à prendre soin du troupeau au travers de ses dons et de ses ministères. Et c'est ce que l'apôtre Paul écrit dans sa lettre aux Éphésiens, au chapitre 4, verset 11. Je lis, c'est lui, il est question du Christ dans le texte, c'est lui qui a donné les uns comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme annonciateurs de la bonne nouvelle, d'autres comme bergers, pasteurs et maîtres. Et dans quel but ces dons ont-ils été faits, donnés à l'Église par le Christ? C'est la suite du verset, enfin du passage, pardon, qui nous le dit. « Afin de former les saints pour l'œuvre du ministère, pour la construction du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état de l'homme adulte, à la mesure de la stature parfaite du Christ. » Je suis obligé de faire court parce que c'est très très riche, il y aurait beaucoup de choses à dire ici. Mais pour faire court, Christ a donné des dons et des ministères, les dons et les ministères dont il est question au verset 11, et dont font partie les bergers, les pasteurs, les anciens, ce sont des termes équivalents dans l'Écriture, afin de construire l'Église, qui est le corps de Christ, et de le préparer à servir jusqu'à ce qu'il parvienne à la maturité et à la perfection spirituelle qui, bien évidemment, se produira lors du retour du Seigneur. Et nous pouvons noter que nous retrouvons dans notre texte d'Acte 20 quelque chose de cette réalité avec la mention des anciens et de leur responsabilité à veiller sur le troupeau, à faire paître le troupeau, dit Paul. Ce qui nous amène à notre point suivant, une Église structurée. La vision que l'apôtre Paul a de l'Église, ici et ailleurs aussi, est celle d'une Église structurée, et qui est structurée, entre autres, par le ministère des pasteurs anciens, dont la fonction va être précisée dans ce texte et dans d'autres textes du Nouveau Testament. Je relis le verset 28. « Prenez donc garde à vous-même, » il s'adresse aux anciens d'Éphèse, « et à tout le troupeau parmi lequel l'Esprit-Saint vous a nommé épiscope. » Voilà un mot dont on n'a pas trop l'habitude, on va y revenir. « Faites paître l'Église de Dieu, cette Église qu'il s'est acquise par son propre sang. » Ici, l'apôtre Paul appelle épiscope, ça donnera épiscopat. Notre traduction fréquente, c'est évêque. Et oui, vous ne le saviez pas, mais vous avez des évêques dans l'Église. Ça vient de là, les évêques. En tout cas, il appelle épiscope ceux qui sont appelés anciens précédemment dans le texte au verset 17. Vous pourrez regarder ça tranquillement dans votre Bible. Pourquoi les anciens sont-ils nommés épiscopes? Qu'est-ce que ça veut dire d'ailleurs? Est-ce que c'est un titre? En réalité, c'est une fonction. Et Paul indique par ce mot, et il va préciser dans le texte, que leur mission, la mission des épiscopes, elle est de garder le troupeau et de veiller sur le troupeau, ce qui est la même chose. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau de Dieu, sur lequel l'Esprit-Saint vous a nommé épiscope, faire paître l'Église de Dieu, veillez donc. Épiscope, littéralement, c'est surveiller, c'est le surveillant, celui qui veille sur. Et là, une des missions principales de l'ancien, du berger, du pasteur, est bel et bien de veiller sur. Et c'est dans ce sens-là qu'il est un surveillant, qu'il est un épiscope, littéralement. Mais vous avez remarqué sans doute que, avant de faire cela, il doit d'abord veiller sur lui-même. C'est ce que dit le texte. Prenez donc garde à vous-même, avant de dire et à tout le troupeau. Prenez donc garde à vous-même. Avant de pouvoir prendre garde du troupeau, à tout le troupeau, le berger doit prendre garde à lui-même. Et ce n'est que dans la mesure où il prend soin de lui-même, spirituellement parlant, que l'épiscope va pouvoir véritablement prendre soin des autres. C'est un préalable incontournable. Pour pouvoir prendre soin de l'Église, l'ancien doit d'abord veiller sur lui-même, sur sa condition spirituelle. Comme l'apôtre Paul le souligne à d'autres endroits, par exemple, dans sa lettre, dans sa première lettre à Timothée, où il dit à Timothée, « Veille sur toi-même et sur ton enseignement, parce que ce n'est que dans la mesure où je veille sur moi-même et où je porte une attention particulière à cela, que je pourrai, par la grâce de Dieu, avancer dans ce chemin de service et exercer cette vigilance sur le troupeau dont il est question. » Deux choses encore, pour terminer ce troisième point, concernant la vigilance des anciens sur le troupeau. Premièrement, vous l'avez vu dans le texte, c'est une vigilance qui doit s'exercer sur tout le troupeau. Tout le troupeau. C'est un point important. Et c'est peut-être pas la chose la plus facile à faire en réalité. Parce qu'il est très facile, en tout cas il peut être très facile, pour quelqu'un, pour toutes sortes de raisons, certaines très bonnes et d'autres peut-être moins, de passer entre les mailles du filet de la vigilance, vigilance pastorale. Et la deuxième chose que je voulais dire ici, c'est que cette vigilance sur tout le troupeau est une vigilance de tous les instants. Et elle est présentée ici comme, en tout cas, à l'aune du modèle que l'apôtre Paul nous laisse au verset 31, où il dit « Veillez donc, en vous souvenant que pendant 3 ans, nuit et jour, je n'ai cessé dans les larmes d'avertir chacun de vous. » Heureusement que c'est du langage hyperbolique, parce qu'il a quand même fallu à un moment donné que l'apôtre dorme, qu'il se repose. Mais le message est clair. La vigilance doit être constante, sans relâchement, dans la mesure du raisonnable, bien évidemment. Faire paître le troupeau de Dieu, c'est donc entre autres veiller. Mais veiller pourquoi ? Et puis veiller à quoi ? C'est le point que nous allons voir, les deux points que nous allons voir dans le point suivant, une église en danger. Veiller pourquoi ? Parce que l'Église fait face à des dangers de l'extérieur et des dangers de l'intérieur. Je relis les versets 29 et 30. « Je sais bien, moi, dit Paul, qu'après mon départ s'introduiront parmi vous des loups féroces qui n'épargneront pas le troupeau, et que d'entre vous-même se lèveront des hommes qui diront « des choses perverses pour entraîner les disciples à leur suite. Oui, l'Église est soumise à toutes sortes de dangers spirituels. Tout d'abord, ceux qui viennent de l'extérieur, et que Paul, dans la logique de cette image du troupeau, appelle des loups féroces, qui vont s'introduire, dit-il, après son départ dans le troupeau. Et cette image du loup, elle m'a fait tout de suite penser, peut-être vous aussi, à ce que Jésus dit dans Jean 10, quand il dit « Moi, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis, mais le mercenaire, qui n'est pas le berger et à qui les brebis n'appartiennent pas, voit venir le loup, voit venir le danger, abandonne les brebis et s'enfuit. Et le loup s'en empare et les disperse. C'est qu'il est mercenaire et qu'il ne se met pas en peine des brebis. » Cette menace des loups féroces est très parlante. Et elle souligne avec force la réalité des dangers spirituels qui guettent l'Église. Le danger est réel. Mais à quoi est-ce que cela correspond? Cela correspond, par exemple, à tous les enseignements hérétiques auxquels l'Église doit faire face et qui peuvent séduire bien des brebis du troupeau pour les détourner du véritable berger, par exemple. L'histoire de l'Église, et en particulier celle des premières églises, des premières communautés, montre la réalité de ces hérésies qui ont souvent gravement menacé l'Église. C'est encore le cas aujourd'hui avec bien d'autres hérésies qui existent. Et nous voyons dans les écrits du Nouveau Testament les auteurs qui corrigent régulièrement ces façons de penser qui viennent de l'extérieur, en avertissant contre les hérésies, contre les faux enseignements, les faux docteurs, les autres évangiles, et j'en passe. Alors les dangers peuvent venir du dehors, mais ils peuvent aussi venir du dedans. Et Paul écrit que d'entre vous-mêmes se lèveront des hommes qui diront des choses perverses pour entraîner les disciples à leur suite. Les influences mauvaises, quelles qu'elles soient, viennent parfois de l'intérieur, avec des enseignements erronés, trompeurs, pervers, qui eux aussi peuvent séduire le troupeau et le diviser. Notre Église, j'étais pas là, mais notre Église a connu une grave crise dans les années 60 de l'intérieur avec l'influence d'un enseignement de ceux que l'on appelle ou que l'on a appelé les Norvégiens. Et l'apôtre Paul, dans une parole dans son épître aux Romains, va dénoncer ces influences internes qui amènent la division. Voilà ce qu'il dit. « Je vous encourage, mes frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des chutes, contrairement à l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux, car de tels individus ne sont pas esclaves du Christ notre Seigneur, mais de leur propre ventre. Par de bonnes paroles et par des éloges, ils trompent le cœur des gens sans malice. » Et puis un autre avertissement semblable dans la lettre aux Colossiens, chapitre 2, verset 8, « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie au moyen d'une philosophie trompeuse et vide, selon la tradition des humains, selon les éléments du monde, et non pas selon le Christ. » Oui, la vigilance doit toujours être de mise dans l'Église, parce que celle-ci est constamment soumise à toutes sortes d'influences du dehors et du dedans. Une vigilance toujours de mise parce que nous avons un adversaire qui lui aussi ne dort pas et qui rôde, nous dit la parole de Dieu, comme un lion rugissant, cherchant à détruire et à diviser. Combien notre vigilance doit être grande et surtout combien il nous faut être nourris de la parole de Dieu pour discerner le bien du mal et le mal du bien, pour discerner le vrai du faux et le faux du vrai. Dans les années qui vont suivre le départ de l'apôtre Paul de l'église d'Éphèse, nous savons que l'église d'Éphèse va faire effectivement face à des influences hérétiques qui la mettront gravement en danger. Et nous trouvons des traces de cela dans la première lettre de Paul à Timothée et dans la lettre à l'église d'Éphèse dans l'Apocalypse. Rapidement, deux exemples. Voilà ce que Paul dit à Timothée dans 1 Timothée 1, versets 3 et 4. « Comme je t'y ai encouragé en partant pour la Macédoine, demeure à Éphèse afin d'enjoindre à quelques-uns de ne pas propager d'autres enseignements et de ne pas s'attacher à des fables, ni à des généalogies sans fin qui favorisent les débats, plutôt que l'intendance de Dieu qui s'exerce dans la foi. » On devine les tensions, les problèmes qui qu'il y avait à Éphèse. Et puis, dans cette lettre, dans une des sept lettres donc aux églises au début de l'Apocalypse, à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des sept porte-lampes d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais bien que tu ne peux pas supporter les méchants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas, et tu les as trouvés menteurs. Tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de mon nom, tu ne t'es pas lassé. Mais j'ai ceci contre toi, tu as abandonné ton amour premier. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, change radicalement et reviens à tes œuvres premières. Sinon, si tu ne changes pas radicalement, je viendrai à toi et j'enlèverai ton porte-lampe de sa place. Cependant, tu as ceci pour toi, tu détestes les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que moi-même je déteste. Je m'arrête là. Les Nicolaïtes, une secte dont on ne sait quasiment rien, mais qui, à l'évidence, était influente dans cette église d'Éphèse. Oui, le danger est réel pour l'église. Aujourd'hui, comme autrefois, et aujourd'hui peut-être plus que jamais, s'exercent toutes sortes d'influences, très insidieuses souvent, sur l'église, qui peuvent nous détourner de la volonté du Seigneur et de sa volonté. Combien donc notre vigilance à tous doit être grande, et en particulier celle des anciens. J'aimerais vous encourager et vous demander de prier, de continuer à prier comme nous l'avons fait ce matin pour le conseil d'anciens, afin qu'ils puissent, par la grâce de Dieu, exercer cette mission que Dieu lui a confiée. Nous arrivons à notre dernier point, une église gardée par Dieu. Et je relis le verset 32. « Et maintenant je vous confie à Dieu et à la parole de sa grâce, qui a la puissance de construire et d'assurer un héritage parmi tous ceux qui sont consacrés. » Nous, les anciens, nous tous, nous devons veiller, mais nous devons surtout nous en remettre à Dieu, nous en remettre à la parole de sa grâce, à Dieu qui, lui seul, peut véritablement nous garder. Il est celui qui a la puissance de construire, dit Paul, et d'assurer notre héritage céleste. Oui, il y a des dangers. Oui, nous sommes faibles, mais il est fort. Oui, nous sommes inconstants, mais il est fidèle. Nous sommes faillibles, mais il est fiable. Nous sommes en danger, mais il veille sur son troupeau. Et nous nous souvenons ici de la parole que Jésus a dite à Pierre dans l'évangile de Matthieu, chapitre 16, verset 18. « Moi, je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre, je construirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. » Quelle belle promesse. Jésus construit son Église. Ce n'est pas nous, c'est lui. Et pas même la mort ne pourra la détruire, parce que Jésus s'est engagé à la préserver. Elle est dans la main de Dieu, elle est sous sa protection, elle est gardée par lui. Et c'est la raison pour laquelle nous pouvons être confiants. Nous pouvons être tous confiants. Et c'est la raison pour laquelle nous, les anciens, nous pourrons avancer dans cette tâche à laquelle le Seigneur nous a appelés, avec confiance, parce que nous savons que celui en qui nous avons cru nous gardera dans sa main. Et s'il permet les difficultés, s'il permet les épreuves, il restera dans la barque avec nous. Et il nous donnera les moyens de la supporter. Oui, c'est à Dieu et à la parole de sa grâce que nous nous confions et que nous vous confions. Amen.